Bonjour à tous et à toutes, merci d'être de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles à nous suivre pour ce rendez-vous sur Radio Judaïka du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Arlevey, grand rabbin de Strasbourg et du Bahreïn. Monsieur grand rabbin, bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Écoutez, très bien.
Baruch HaShem. Cette semaine, nous lirons la paracha de Yitro, la paracha des 10 commandements, l'allumage des bougies à 17h07, mais vous pourrez entrer le Shabbat à partir de 16h29 et demain, la fin du Shabbat, à 18h20. Avant de commencer, on n'oublie pas évidemment de souhaiter un refroid shalima à tous nos malades et également aux personnes isolées et à nos aînés. Et également, nous avons une pensée pour nos frères en Israël. Enfin, permettez-moi, M. Grand Rabbin, de dédier cette émission à Simon Selam, Zichron Ojoara, c'est mon grand-père.
Shimon, Shimon.
Le papa de ma maman, qui fait son Yassait. Et je voulais aussi dédier cette émission à Mme Ruby Tapiro, qui nous a quittés évidemment. Toutes nos pensées vont à la famille Tapiro, bien connue ici à Strasbourg. Avant de commencer la paracha, j'avais une discussion avec un ami la semaine dernière. On parle beaucoup en ce moment d'une possibilité d'accord entre Israël et le Hamas pour libérer les otages. Il me disait entre les otages qui sont en capture et les soldats qui meurent pour libérer ces otages, comment on fait le choix? C'est quoi la réponse toraïque? Est-ce qu'on se dit on va laisser les soldats se faire tuer pour libérer les otages ou le contraire?
C'est dommage que vous ne soyez pas venu le mardi midi au Limouden Foot, puisque nous avons consacré 7 ou 8 cours d'une heure à cette question extrêmement épineuse qui est celle de la libération des otages. On
Alors,
a essayé un petit peu de voir sous l'angle, c'est tous les mardis à 12h30, et sous l'angle, donc sous le prisme de la parole de nos sages, des enseignements du Talmud et de tous les commentaires, que ce soit les Rishonim jusqu'aux commentaires les plus contemporains, nous avons essayé de rentrer un petit peu dans cette sugya épineuse, ce sujet extrêmement complexe, d'éventuels accords justement concernant la libération d'otages, jusqu'à où doit-on aller pour satisfaire la demande des terroristes ou des ravisseurs, est-ce qu'on peut tout accepter, est-ce qu'on peut accepter que la condition de satisfaire la condition formulée par les ravisseurs ou les terroristes, qui pourraient elles-mêmes, au niveau de ses conséquences, eh bien, mettre en danger aussi le reste de la population. Et c'est le cas lorsque ces échanges se font contre des dizaines, des centaines, voire des milliers de terroristes, potentiellement prêts à repasser à l'attaque. Voilà, question très épineuse. On a essayé vraiment de la tourner un petit peu dans tous les sens, de l'aborder. Je ne peux pas vous résumer 8 heures de chiour en quelques minutes. Voilà, ce qui est évident, c'est que ça doit être très très compliqué aujourd'hui de devoir prendre des décisions, et on n'aimerait pas être à la place de ceux qui doivent les prendre aujourd'hui en Eretz
Israël. Contrairement, dans la Torah ou dans le texte, on parle de ça.
Tout à fait, c'est un sujet très ancien. On parle de cette mitzvah, ce commandement que l'on appelle Pidyon Shvuim, le rachat des captifs, qui est considéré, notamment le Rambam en parle beaucoup, Maïmonide, comme un des commandements les plus importants de la Torah, parce qu'en accomplissant cette mitzvah, ce commandement de Pidyon Shvuim, de racheter des captifs, eh bien en réalité, nous accomplissons plusieurs mitzvot en même temps. C'est la raison pour laquelle c'est un commandement particulièrement important,
mais,
parce qu'il regroupe...
C'est la balance entre la vie des soldats qui sont obligés d'aller, enfin, qui vont... sauver ses otages et les otages.
Alors, au contraire, dans l'accord que vous venez d'évoquer, je veux pas faire de la politique, c'est pas du tout mon domaine. Dans l'accord que vous venez d'évoquer, il serait plus question de mettre en danger la vie des soldats, puisqu'au contraire, ça serait un cessez-le-feu total en arrêtant complètement la guerre pour procéder tout simplement à un échange. Donc là, on parle plus d'opérations militaires de risquées pour sauver la vie des soldats. Là, dans l'accord dont vous parlez, c'est un accord où on procède tout simplement à un échange et que la condition est justement l'arrêt total de l'action militaire. Donc la question serait plutôt de savoir est-ce qu'on doit céder à cette demande qui a l'air totalement disproportionnée, ou bien est-ce qu'au contraire, il faut continuer le combat et mener des incursions et tenter des actions qui seraient de nature à permettre la libération des otages, même si ces actions, par définition, elles comportent un risque. Elles peuvent entraîner la mort de ceux qui sont engagés dans ces actions. Voilà, ce sont des questions vraiment extrêmement épineuses. En tout cas, oui, la Torah parle de ces questions, la Torah les aborde, et les aborde, c'est ce qui est toujours très intéressant, et c'est ce qu'on voit notamment, on a beaucoup de responsas qui ont été écrits, et on a notamment étudié des responsas très intéressants, très pratiques, notamment lors de la question épineuse qui a concerné la prise d'otage à Entebbe, rappelez-vous, qui finalement, on le sait, c'est extrêmement bien... terminé, même si on a eu quelques morts, mais c'est absolument miraculeux la manière dont on a réussi à sauver la quasi-totalité des otages et même des personnes, des militaires qui étaient engagés dans cette action surprise. Mais il faut savoir que la question avait été posée avant qu'on engage l'action militaire. Dans les heures qui ont précédé cette action militaire, la question avait été posée au Rabbanim pour savoir ce qu'il fallait accéder à la demande des terroristes, c'est-à-dire une libération vraiment sous quelques heures de terroristes extrêmement dangereux, de nombreux terroristes extrêmement dangereux en Israël, en contrepartie de tous les otages, ou bien est-ce qu'il fallait sacrifier en quelque sorte la vie des otages pour ne pas mettre en danger le reste de la population. Et ces questions-là ont été traitées par les plus grands rabbinis, je pense notamment un très beau responsum de Rav Ovadia Yosef, qui reprend un petit peu tous les éléments et qui nous amène finalement sa conclusion. Conclusion d'ailleurs sur laquelle il est un petit peu revenu lorsqu'il a vu les conséquences de la libération de ces otages, et on pense aussi, et on terminera pour pas passer l'émission là-dessus, à la question qui s'était posée lors de la libération de Gilad Shalit, où là il ne s'agissait pas de plusieurs otages, mais d'une seule personne, un seul soldat, on sait, dont la vie bien sûr est inestimable, la vie pour nous n'a pas de prix, et qu'on avait libéré contre 1000 terroristes, dont plusieurs d'entre eux ont recommencé leurs actions terroristes. Sonny
Mark, qui est responsable du Hamas aujourd'hui. On va revenir à la paracha. Je disais en présentant l'émission que c'est la paracha des 10 commandements, des 10 paroles, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Est-ce que on a une obligation demain comme à Shavuot pour aller écouter les 10 commandements?
Alors on avait déjà abordé cette question plusieurs fois et j'avais rappelé c'est bien de rappeler chaque année que la seule lecture obligatoire d'un point de vue toraïque dans l'année est la lecture de la parachat. Amalek, c'est la lecture du Shabbat Zachor, le maftir du Shabbat Zachor, dans lequel donc nous rappelons l'obligation de se souvenir et de l'otishkar, de ne pas oublier ce que nous a fait Amalek. C'est la seule lecture de la Torah qui, à proprement parler, est une obligation toraïque. Il y a une discussion sur la parashat Para, même si la plupart des avis pensent qu'elle est rabbinique, certains pensent qu'elle est d'obligation toraïque. Toutes les autres sidrot que nous écoutons chaque semaine ne sont pas d'obligation toraïque, elles sont d'obligation rabbinique. Ça a été institué plus tardivement.
Pourtant, c'est la première fois où on annonce dans la Bible.
Alors, pour autant, c'est pour ça que je mets un bémol, vous me demandez s'il y a une obligation. Il n'y a pas d'obligation toraïque, mais bien évidemment, il y a une importance toute particulière de l'écoute de ce passage. C'est pour ça que c'est toujours l'occasion pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, de les encourager à venir écouter les 10 commandements demain. Et pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'amener leurs enfants aussi, je parle des enfants qui sont un peu plus jeunes, qui ne sont pas encore bar mitzvah, et bien de faire l'effort de les amener, peut-être les motiver en leur disant qu'il y a les 10 commandements, et ça pourra les encourager à venir à la synagogue demain écouter ce passage extrêmement important.
Le résumé ? Rapidement, ce grand.
Alors, le résumé, il est très rapide parce que cette paracha Yitro, finalement, est très courte. Alors, elle s'appelle Yitro, et si elle s'appelle Yitro, ce n'est pas pour rien. Vous savez que le nom de la paracha, même si souvent c'est le premier ou le deuxième mot de la paracha, donc on pourrait penser qu'on a donné à chaque fois le titre à la paracha en prenant le premier ou le deuxième mot, mais en réalité, c'est bien plus que cela. Le titre d'une paracha, c'est toute la paracha. C'est vraiment l'idée de toute la paracha. Si la paracha s'appelle de Yitro, on s'attend à ce qu'elle nous parle d'Yitro. Effectivement, la moitié de la paracha est consacrée à Yitro. Elle est consacrée dans un premier temps à sa démarche, la démarche qui a été la sienne dans sa conversion. Comment est-ce qu'il a écouté et comment ensuite à cette écoute, eh bien, il a été capable d'entreprendre une démarche courageuse. La deuxième, c'est un Yitro qui passe à l'action, qui prend ses responsabilités et qui va aller jusqu'à donner des conseils à son gendre. On l'a dit aussi, Moshe, aussi important soit-il, il se voit conseillé par son beau-père, Yitro. fraîchement rentré dans le clan Israël, et notamment donc sur l'organisation ici de la cour du système judiciaire tel que Moshe l'avait mise en place. Ça, c'est la première partie de la paracha, la première moitié de la paracha. La deuxième partie, vous en avez parlé, Jean, il y a un instant, elle sera consacrée à tout ce qu'on appelle le Mahamad Arsinaï, c'est-à-dire le don de la Torah au Sinaï, et la manière dont ce don s'est organisé avec le rassemblement du peuple tout autour du Arsinaï, la préparation de 3 jours au don de la Torah, et puis le don de la Torah à proprement parler avec les 10 commandements, donc qui sont au cœur de la paracha. Et les derniers versets, le dernier passage de la paracha sera consacré à la manière dont Moshe va rassurer un petit peu le peuple après une expérience spirituelle qui a été très déstabilisante. Et on trouvera encore 2-3 mitzvot à la fin de cette paracha, notamment donc l'interdiction, lorsque l'on fabrique l'autel, de le fabriquer en pierre de taille.
Alors, vous l'avez dit, c'est quand même assez déstabilisant de voir une paracha qui porte le nom d'Yitro, où dans cette paracha, il y a les 10 commandements. Je connais votre réponse. Si je vous demande qui est Yitro, vous allez dire quelqu'un d'intègre, de droit, etc. Mais franchement, dans le peuple juif, il y avait bien des gens qui étaient aussi importants, qui avaient aussi cette droiture, cette qualité dans le peuple juif. Il fallait aller ailleurs pour trouver quelqu'un.
Alors, la réponse à votre question, à mon avis, se trouve dans le premier mot de la paracha. Vous savez que souvent, le titre de la paracha est emprunté au premier mot. Mmh. Là, Yitro, c'est le second mot de la paracha. Mais le nom de Yitro, donc il y a le sujet ici de ce premier verset, est précédé d'un verbe. Ce verbe, c'est Vaishma. Et ce verbe, Vaishma, il est extrêmement important. On aurait pu appeler d'ailleurs cette paracha Vaishma, parce que Vaishma, c'est la capacité d'écoute. Yitro a entendu, et on connaît tous le célèbre commentaire de Rashi, qui rapporte les paroles de nos sages. Mais qu'est-ce que Yitro a entendu ? Parce que la Torah ne le précise pas. La Torah nous dit Yitro a entendu ce qu'avait fait Hachem. Très bien, mais de quoi parle-t-on exactement, plus précisément ? Et Rashi de nous dire, bien plus précisément, il a entendu Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, il a entendu parler de l'ouverture de la mer Rouge, et Milchemet Amalek, il a également entendu la guerre menée contre Amalek.
Bah, il y en a qui l'ont vécu, Kriyat Yamsouf et la guerre.
Alors, c'est pourtant, ça. Alors, écoutez bien, Jean. Écoutez bien, sans mauvais jeu de mots, Vaishma, la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, et je le disais hier, c'est intéressant, la capacité d'écoute dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de bruit parasite. Nous vivons dans une époque, nous vivons dans une société dans laquelle il y a une espèce de bruit assourdissant, permanent, finalement, bien sûr au sens propre, mais comme au sens figuré, et il est extrêmement difficile finalement de pouvoir capter les bonnes ondes, de pouvoir capter la bonne parole. Yitro, la force qui est la sienne, c'est sa propension à être capable, dans un tumulte permanent et incessant, d'être capable de capter la parole qui va le faire réfléchir, la parole qui va le transformer, la parole qui va véritablement lui permettre de se remettre en question. Ça, c'est la force de Yitro, Vaishma. Il entend beaucoup de choses, mais au milieu de tout ce qu'il entend, par rapport à toutes les informations qui lui parviennent, et rappelez-vous qu'Yitro était un personnage éminemment important, donc également éminemment informé, eh bien, Yitro va être capable de faire son choix, il va être capable de sélectionner, il va être capable de prêter justement l'oreille, d'être attentif, et de faire une sorte de tri, finalement, d'avoir un filtre. C'est ce qu'on fait tous les jours, mais est-ce qu'on le fait correctement, finalement ? Est-ce qu'on est capable, finalement, dans ce tumulte, de pouvoir écouter ? Mais écouter, ici, c'est une écoute qui est profonde. Vaishma, c'est le même verbe que celui du schéma Israël. C'est pas simplement entendre, c'est écouter de manière beaucoup plus profonde. Et bien sûr qu'il y a un écho du schéma Israël par rapport à ce Vaishma Yitro. Ces deux verbes ici se nourrissent finalement l'un de l'autre. Et le Vaishma Yitro, c'est la même force, la même puissance avec laquelle le Ham Israël, le peuple d'Israël, proclame 2 fois par jour Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, sa profession de foi. Donc vous le voyez, Jean, une capacité extrêmement profonde ici à pouvoir non seulement bien sûr entendre, mais écouter, c'est-à-dire intégrer de manière profonde ce qu'on a entendu et faire en sorte que ce que nous avons entendu nous pénètre et nous transforme. Vous savez, des fois, on entend des choses, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. La force de Yitro, c'est que lorsque ça rentre dans une oreille, ça ne ressort pas par l'autre. Au contraire, ça fait son travail, ça fait réfléchir, et surtout, eh bien, ça engage et ça entraîne une démarche. Et c'est cette démarche ici qui est saluée par la Torah. Et c'est parce que cette démarche a été tellement courageuse, parce qu'il y avait tellement de personnes qui étaient hostiles, encore à ce moment-là, au clan Israël, le peuple d'Israël qui était un peuple tout fragile, fraîchement sorti d'Égypte, qui n'avait absolument encore, qui ne s'était pas encore fait de nom, qui avait été poursuivi jusqu'à la dernière seconde par les Égyptiens. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu ce courage de la part d'un homme qui était parfaitement intégré dans la société, à qui on avait déjà offert un des postes les plus éminents, bien cette capacité à tout quitter, tout simplement pour aller vers le Emet, vers l'authenticité, vers ce qui lui semblait être la vérité, ça, c'est la force de Yitro, et cela mérite que l'on donne son nom à une paracha aussi importante que Yitro, celle dans laquelle se trouvent les 10 commandements, et je vais même aller plus loin que cela, c'est qu'il a carrément éclipsé même presque la Aseret HaDibrot, parce que cette paracha, on aurait pu l'appeler 10 commandements, Aseret HaDibrot, non, on l'a appelé Yitro.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le texte, on nous dit que Yitro, sa fille, donc la femme de Moshe Tzipora, ses deux enfants, deux garçons, sont venus rejoindre Moshe.
Achar Shiluchea, on l'apprend, effectivement, lorsqu'elle nous dit qu'après qu'il les avait renvoyés. Alors, vous allez me dire, mais c'est faux, puisque nous, on se rappelle que lorsque Moshe a quitté Midian, il a demandé la permission à son beau-père de partir avec sa femme et ses enfants. Et on avait même commenté ce passage, il y a eu une démarche très noble ici de la part de Moshe Rabbeinu, qui bien qu'il en avait reçu l'ordre de Dieu, a jugé utile et tout à fait correct finalement, comme une bonne manière de demander l'avis de son beau-père, qui à ce moment-là n'était d'ailleurs absolument pas encore converti au judaïsme, mais qui pratiquait l'idolâtrie, donc c'était un personnage pas forcément recommandable.
Il n'y a aucun texte, aucun mot qui confirme que Yitro a été converti.
C'est pas marqué explicitement dans la Torah, vous avez raison, mais la démarche ici, la démarche est claire, et vous n'allez pas remettre en question les commentaires de sages sur la démarche qui est celle de Yitro. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites explicitement dans la Torah. On a un commentaire de la Torah chez Béal Pé pour nous dire quelle a été la démarche ici, derrière cette écoute de Moshe.
Juste que c'est pas marqué.
Qu'est-ce qui vous manque ici dans le texte? C'est le mot conversion, c'est ça ce qui vous manque. Parce que,
On va avancer si vous voulez. Et je voudrais qu'on arrive justement aux 10 commandements. Parce que sinon, on a encore plein de questions sur Yitro. On va arriver aux 10 commandements. Et avant de parler vraiment des textes, ce qui est marqué. Beaucoup de commentateurs ont fait un commentaire sur la forme de tas de la loi, 5 paroles d'un côté, 5 paroles de l'autre, 3 paroles qui sont coupées en 3. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 explications sur la forme qu'a ce...
Alors effectivement, on aurait pu... Alors déjà, la forme, je suis pas certain que ce soit... Voilà, arrondi, hein, d'après, si on s'en tient à nos textes, les louchotes n'étaient pas rondes, elles étaient plutôt de forme carrée ou rectangulaire, mais pas véritablement. Vous êtes trop influencé par le film de Cécile B2000, qui nous a... Mais bon, c'était bien avant lui déjà, je pense qu'on a les premiers dessins de louchotes arrondis. Donc ils n'étaient pas arrondis, mais je pense que ce n'était pas là le sens de votre question, c'était de savoir pourquoi est-ce qu'on les a organisés en 2 louchotes, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une seule table. Effectivement, votre question est posée, on aurait pu très bien imaginer ces 10 paroles inscrites sur une seule table. Alors le risque de donner les 10 paroles en une seule table, sous cette forme-là, ça aurait été de suggérer une forme de hiérarchie dans les mitzvot. Alors cette forme de hiérarchie aurait été extrêmement sévère. Le fait est extrêmement trompeuse et elle n'aurait pas rendu compte finalement de l'importance que la Torah donne aux mitzvot, à l'ensemble des mitzvot, en ne souhaitant pas placer justement l'Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, au-dessus du Lotir Tsar, de l'interdiction de tuer. On sait que l'explication bien sûr la plus classique, c'est que si on a divisé ces 10 commandements en 2 parties, avec une table à droite et une table à gauche, parce qu'il y en a une qui porte les 5 commandements qui représentent l'engagement d'un homme vis-à-vis de Dieu, ce qu'on appelle Ben Adam Lamakom, et les 5 autres qui représentent des mitzvot qui concernent l'engagement d'un homme vis-à-vis de son prochain, un mitzvot Ben Adam Lachavero. Il y a bien sûr encore une subtilité plus importante, c'est qu'en plaçant ces mitzvot, ces commandements l'un en face de l'autre, eh bien on suggère aussi un rapport, un rapport intime qui existe à chaque fois entre la parole de droite et la parole de gauche. Donc ça aussi, je vous laisse faire le travail, c'est très intéressant. Le Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, qui est mis en parallèle avec le Lo Tirtsakh, l'interdiction de tuer. Oui, quand je tue finalement mon prochain, c'est une certaine forme de déicide finalement, parce que je lui ôte la part de Dieu qui est en lui aussi. Mmh. On peut faire ce travail finalement avec chaque commandement.
Je vous avais expliqué un jour qu'il y avait une sorte de 3 par 3.
Oui.
Alors, qui parle de la terre, hein, la parole.
Voilà, exactement. Alors, j'aime beaucoup ce commentaire aussi, cette idée, comme quoi, et parce que vous savez que ces 10 commandements sont en quelque sorte un peu un succès d'année, finalement, de l'ensemble de la Torah, de l'ensemble des mitzvot, et ils sont un échantillon représentatif, on va dire, de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Et il y a effectivement, dans la manière dont nous avons voulu balayer un petit peu tous les domaines et, d'interaction finalement de l'homme dans ce monde, 3 niveaux qui sont celui de la pensée, la marshava, le dibour, celui de la parole, et le maase, celui de l'action. Alors vous constaterez, lorsque l'on dresse ces 10 commandements, ces 10 paroles, que nous allons un petit peu toucher à l'ensemble de ces domaines. On va commencer par la pensée, Anochi Hachem Elokecha, c'est quelque chose qui se situe, je suis Hachem ton Dieu, au niveau de la pensée, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est au niveau de la pensée, le dibour, l'otissa et Hachem Hachem Lachav, l'interdiction de prononcer le nom de Dieu en vain, et après l'action, hein, le respect du Shabbat, le respect des parents, on est dans l'action. Il y a une symétrie, lorsque vous prenez les paroles de gauche, eh bien cette fois-ci on va commencer inversement, donc par d'abord quelque chose qui touche à l'action, d'accord, l'acte, hein, donc c'est pour ça que je vous parlais de symétrie, l'otirtsakh, d'accord, l'otinaf, on est dans l'acte, puis le dibour, hein, l'otane berachet shaker, donc l'acte avec les 3 premières paroles qui sont des actes. Alors c'est vrai, il y a 2 paroles d'acte à droite et 3 paroles d'acte à gauche, mais en tout cas on a le même schéma, c'est ça que je voulais dire, c'est pas une symétrie parfaite, mais on a le même schéma, 3 paroles d'acte, donc interdiction de tuer, interdiction de commettre l'adultère, interdiction de voler, et puis les 2 dernières paroles, une qui représente le dibour, l'otane berachet shaker, hein, l'interdiction de porter un faux témoignage, et enfin l'otachmod, l'interdiction de convoitise, qui cette fois-ci est dans la pensée. Donc c'est vraiment intéressant ce schéma symétrique entre la table de droite et la table de gauche, et c'est aussi cela qu'on a voulu suggérer en disposant les paroles de cette manière.
Alors on va passer un peu tout le cérémonial avec les éclairs, la tonnerre, et tout ça à l'arrivée d'Hachem.
Alors, c'est intéressant, vous parlez de tonnerre, d'éclairs, c'est un décor un peu hollywoodien. Et vous le savez, c'est malheureusement, ces premières louchotes ont été brisées. Lorsque Moshe redescend, il y a le Egal Azav, il y a le Vaudor. Mmh. Et là aussi, la Gemara va parler de tout cela. Et ça nous donne finalement un petit peu une leçon, comme quoi, voilà, ce qui est donné dans un faste un petit peu trop important, et lorsqu'on fait une publicité trop importante, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Et c'est finalement quelque chose qui peut porter préjudice. Donc on voit que l'idée finalement ici de la discrétion aussi, de ce qu'on appelle d'avoir à Samoui Minahaïn, bien nous avons un petit peu un contre-exemple. Alors on pourrait épiloguer pendant longtemps, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu a choisi de donner de cette manière? En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, nous voyons que les secondes louchot qui, elles, n'ont pas été brisées et qui ont pu être conservées par le Ham Israël, ont été données de manière beaucoup plus discrète et beaucoup moins faste que les premières.
Mmh. Alors, dans les 10 commandements, on va y venir concrètement. Ce qui m'a étonné, c'est que Dieu s'est défini comme celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire, avant ce qui s'est passé avant, on oublie et on démarre. Alors, à la création de Dieu.
Excellente question. Votre question, qui est une question très classique, et notamment, et c'est celui que l'on cite, qui est absolument inévitable lorsqu'on aborde cette question, elle est abordée par le Kuzari. Le Kuzari, c'est l'ouvrage principal de Rabbi Yehuda Halevi, donc un ouvrage du Moyen-Âge, qui nous raconte, finalement, qui est une science, qui est une fiction. Où on imagine un dialogue entre le Chacham et le roi des Khazars, hein, qui désire se convertir au judaïsme. Et donc, on va aborder tout un tas de questions un petit peu philosophiques, des questions spirituelles, des questions religieuses. Et il y a un dialogue d'abord qui est mené avec d'autres responsables religieux. Et puis, après avoir balayé finalement... c'est les premières réponses finalement qu'il a entendues qui ne l'ont pas satisfait intellectuellement parlant, le roi des Khazars va se concentrer maintenant dans cet échange, ce dialogue qu'il va avoir avec celui que l'on appelle le Khaver, le Chacham, et toutes les questions vont être abordées, hein, quasiment sans aucun tabou. Et lorsque la question des 10 commandements est abordée, le Khaver ne peut pas passer, le roi des Khazars ne peut pas passer à côté de cette question, qui est une question évidente, mais pourquoi est-ce que Dieu se présente comme celui qui t'a fait sortir d'Égypte et non pas comme celui qui a créé le monde? Ça aurait été a priori beaucoup plus gratifiant pour lui de se présenter comme le Dieu qui a créé le monde. C'est beaucoup plus vaste, c'est plus général, et ça ne réduit pas Dieu finalement à un moment de l'histoire qui ne concerne que le peuple d'Israël avec les Égyptiens. Et le Chaver de répondre, quelque chose de très pertinent, c'est que Akadosh Baruch Hu, en se présentant de cette manière, tient à montrer à la fois au clan d'Israël mais au monde entier qu'il est un Dieu interventionniste. Il n'est pas un Dieu passif, il n'est pas un Dieu qui s'est contenté de construire le monde, de créer ce monde et de s'en retirer finalement pour le contempler de loin et le regarder se gérer, mais il est un Dieu qui s'intéresse à ce monde, qui s'intéresse à ce qui s'y passe et qui intervient dans le monde. Et le Asher Hotzeticha Meretzraim qui t'a fait sortir d'Égypte, eh bien c'est ici finalement le paroxysme de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle c'est sous cette forme qu'Akadosh Baruch Hu se présente, comme un Dieu qui intervient, un Dieu qui s'intéresse à ce monde, et un Dieu qui est à la fois le partenaire, mais qui est acteur même dans ce qui se déroule à l'intérieur de ce monde.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la venue de Dieu, c'est en fait le peuple qui a demandé à Dieu de venir présenter ses 10 commandements, je dirais, alpanim, en face à face. Est-ce que, finalement... Je vais être un peu méchant, mais est-ce que le peuple méritait-il d'avoir Dieu en face de lui pour lui dire les 10 commandements ?
Alors c'est vrai que cette expérience spirituelle, c'est une expérience spirituelle unique, notamment au travers des deux premières paroles qui vont être entendues directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais pour lesquelles on nous dit que à chaque fois l'âme finalement sortait littéralement du corps. Ouais. Du Ham Israël, et que Jorou était obligé de les ressusciter en quelque sorte. Et à partir de la troisième parole, finalement, Moshe Rabbeinu va servir ici d'intermédiaire, parce qu'effectivement, entendre directement la parole d'Akadosh Jorou, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose qui...
Mais ils ont demandé.
Oui, mais c'est quelque chose qui est finalement qui est d'une grande exigence, et on n'est pas toujours à la hauteur, et on va voir que la peur et la fébrilité du clan d'Israël au sortir de ses 10 commandements, elle est aussi un petit peu liée à ça. Elle est liée à la conséquence d'une expérience qui est bouleversante, qui est déstabilisante. Vivre les 10 commandements, c'est quelque chose d'extraordinaire. On reste un petit peu en contemplation. Mais en même temps, eh bien, on se dit, mais est-ce qu'on est à la hauteur de ce que l'on vient de vivre? Et donc, ça pose tout un tas de questions. Et c'est ça ce qui peut faire sombrer le peuple dans un état de tristesse.
C'est-à-dire que quand on demande à Dieu de venir, il vient.
En tout cas, à ce moment de l'histoire,
oui.
Akadosh Baruch Hu devait se révéler de cette manière, et on va voir que très rapidement, finalement, comme vous l'avez vu, c'est le clan d'Israël qui va demander, qui va dire stop, parce que c'est un peu trop. Malheureusement, on connaît la suite, on va voir ce qui va se passer lorsque Moshe Rabbeinu va monter pour 40 jours et 40 nuits, récupérer les louchot, et puis apprendre l'ensemble de la Torah. Malheureusement, le Egel Azav, le veau d'or, va être fabriqué. Donc, on voit l'état de fébrilité aussi du peuple, même si c'est une autre question. On aura le temps de rediscuter.
Je ne sais pas répondre à la question que je vous ai posée. Est-ce que le peuple a été prêt, ou en tout cas pouvait écouter les 10 commandements?
Alors, vous avez la réponse dans la question. Vous avez la réponse dans la Torah et dans le fait même que le clan d'Israël a finalement accepté. Qu'il n'était peut-être pas suffisamment en mesure d'écouter directement la parole d'Akadosh Baruch Hu, que cela demandait une exigence qui peut-être était au-delà de ce à quoi eux-mêmes s'attendaient. Et voilà, c'est aussi, comme je l'ai dit, ce qui va faire que le clan d'Israël va avoir besoin d'être rassuré par Moshe Rabbeinu par la suite. Et je pense que c'est une très bonne leçon. C'est une très bonne leçon dans le fait de savoir que vous avez raison, Jean. C'est très important d'apprendre à se connaître, et finalement ceux qui arrivent à progresser le mieux, qui arrivent à avoir un cheminement qui soit équilibré, c'est au fond ceux qui se connaissent, voilà, qui connaissent leurs limites, qui savent exactement à quelle vitesse ils doivent fonctionner. Alors attention, je ne suis pas en train de dire à plusieurs reprises qu'il faut aller vraiment tout doucement, qu'il ne faut pas faire les mitzvot et que si quelqu'un ne se sent pas, non. Je suis simplement en train de dire que voilà, il est très important de se connaître. Au contraire, pour se connaître, il faut beaucoup étudier. Je pense que c'est par l'étude qu'on apprend à se connaître. Donc c'est au contraire un encouragement à étudier, parce que plus on étudie, plus on apprend à connaître Akadosh Baruch Hu, bien sûr, mais plus on apprend également soi-même à se connaître. Et ça, je pense que c'est incontournable, très très important.
J'ai oublié, merci Monsieur le Grand Rabbin, j'ai oublié que on fera Birkat HaKodesh demain, puisque ce sera Rosh Chodesh, Adar, Rishon, vendredi.
La Adar Rishon, vous avez raison de le préciser, nous sommes une année embolismique, oui, donc il y a deux mois d'Adar.
Donc c'est jeudi soir et vendredi.
Même si on est impatient de fêter Pourim, il faudra attendre un mois supplémentaire pour encore. Ce sera que Adar Rishon, donc on a encore un bon mois et demi avant de pouvoir célébrer Pourim.
Merci beaucoup, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Jean.
Merci à Thomas pour la réalisation technique. Shabbat Shalom à vous tous. Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, you didn't prepare for Shabbos Kodesh, joy is in-